La manière qu'avait ce jeune Wilbrahm de lui faire déclarer plus qu'il n'en voulait l'irritait un peu. Il n'était pas né ce garçon, et son père était encore bien loin de l'engendrer quand s'étaient passés les faits sur lesquels il enquêtait. Les voilà bien, ces petits officiers royaux, tout gonflés de leur charge neuve. Un jour, ils se retrouveraient eux aussi vieux et seuls contre les espaliers de leur jardin. Oui, Bouville se souvenait de ces choses inscrites au traité de mariage de Philippe d'Artois. Mais quand en avait-il entendu parler pour la première fois? Au moment du mariage même, en 1282, ou bien quand le comte Philippe était mort, en 98, de ses blessures reçues à la bataille de Furnes? Ou bien encore après que le vieux comte Robert II eût été tué à la bataille de Courtrai, en 1302, ayant survécu de 4 ans à son fils, d'où le procès entre sa fille Mao et son petit-fils Robert III, l'actuel. On demandait à Bouville de fixer un souvenir qui pouvait se placer en un quelconque moment sur une période de plus de 20 ans. Et ça n'était pas seulement le notaire Tesson et ce sire de Wilbrahm qui étaient venus lui presser la cervelle, mais Monseigneur Robert d'Artois lui-même, plein de courtoisie et de révérence. Il fallait en convenir, mais tout de même parlant fort, s'agitant beaucoup et écrasant les fleurs du jardin sous ses bottes. « Alors, rectifions de la sorte, » dit le notaire ayant corrigé son texte. Et qu'il eut le dit traité entre les mains, mais ne le tint que peu, et aussi se souvient qu'il fut scellé du sceau des 12 pairs. Et encore que le comte de Bouville nous a déclaré avoir oui dire, alors qu'audit traité était précisément inscrit que la comté d'Artois... Bouville approuva de la tête. Il aurait préféré qu'on supprimât ce petit « alors », « oui dire alors », que le notaire avait introduit dans sa phrase, mais il était fatigué de lutter. Et un mot a-t-il tellement d'importance? « Irait à ses oires mâles issus du dit mariage, et encore nous a certifié que le traité fut bien placé au registre de la cour, et encore tient pour vrai qu'il fut soustrait plus tard au dit registre par manœuvre de malice et sur l'ordre de Madame Mao d'Artois.
« Je n'ai point dit cela non plus !» fit Bouville.
« Vous ne l'avez point dit sous cette forme, monseigneur, répondit Wilbrahm. Mais cela ressort de votre déposition. Reprenons ce que vous avez certifié. D'abord, que le traité de mariage a existé. Secondement, que vous l'avez vu. Troisièmement, qu'il fut mis au registre, revêtu du sceau des pairs. » Wilbrahm échangea un nouveau regard lassé avec le notaire. « Revêtu du sceau des pairs, » répéta-t-il pour faire plaisir au témoin. « Vous certifiez encore que ce traité excluait de l'héritage la comtesse Mao et qu'il disparut des registres, de sorte qu'il ne put être produit au procès qu'intenta Monseigneur Robert d'Artois à sa tante. « Qui pensez-vous donc qu'il ait fait soustraire? Croyez-vous que ce soit le roi Philippe le Bel qui en ait donné l'ordre ?» La question était perfide. N'avait-on pas dit bien souvent que Philippe le Bel, pour avantager la belle-mère de ses 2 derniers fils, avait rendu en sa faveur un jugement de complaisance? Bientôt, on irait prétendre que c'était Bouville lui-même qui avait été chargé de faire disparaître les pièces. « Ne mêlez pas, messire, la mémoire du roi le Bel, mon maître, à un acte si vilain. » répondit-il avec dignité. Par-dessus les toits et les frondaisons, les cloches sonnèrent au clocher de Saint-Germain-des-Prés. Bouville pensa que c'était l'heure à laquelle on lui apportait une écuelle de fromage caillé. Son physicien lui avait recommandé d'en prendre 3 fois par jour. « Donc, » reprit Wilbrahm, « il faut bien que le traité ait été enlevé à l'insu du roi. Et qui pouvait avoir intérêt à ce qu'il fût dérobé? Sinon la comtesse Mao ?» Le jeune commissaire tapota du bout des doigts la pierre du banc. Il n'était pas mécontent de sa démonstration.
« Oh, certes !» fit Bouville. « Mao est capable de tout !»
Sur ce point, sa conviction ne datait pas de la veille. Il savait Mao coupable de 2 crimes, et bien autrement grave qu'un vol de parchemin. Elle avait tué assurément le roi Louis X. Elle avait tué sous ses yeux à lui, Bouville, un enfant de 5 jours, qu'elle pensait être le petit roi posthume. Et toujours pour garder sa comté d'Artois. Vraiment, c'était un souci bien sot que de se faire à son sujet scrupule d'exactitude. Elle avait volé le contrat de mariage de son frère, certainement. Ce contrat dont elle avait le front de nier et par serment qu'il eût jamais existé. L'horrible femme. À cause d'elle, le véritable héritier des rois de France grandissait loin de son royaume, dans une petite ville d'Italie, chez un marchand lombard qui le croyait son fils.
Allons, il ne fallait pas penser à cela. Bouville avait naguère versé ce secret qu'il était seul à détenir dans l'oreille papale. Ne plus y penser, jamais, de peur d'être tenté d'en parler. Et puis que ces enquêteurs s'en aillent au plus vite. Vous avez raison, laissez ce que vous avez écrit, dit-il. Où dois-je signer ?
Le notaire tendit la plume à Bouville. Celui-ci distinguait mal le bord du papier. Son paraphe sortit un peu de la feuille. On l'entendit encore marmonner.
« Dieu finira bien par lui faire expier ses fautes, avant de la remettre à la garde du diable. »
Un peu de poudre asséchée fut répandue sur sa signature. Le notaire replaça feuille et écritoire dans son sac de cuir noir. Puis les deux enquêteurs se levèrent pour prendre congé. Bouville les salua de la main sans se lever. Il n'avait pas fait 5 pas qu'il n'était déjà plus pour lui que 2 ombres vagues se dissolvant derrière le mur d'eau. L'ancien chambellan agita une clochette posée à côté de lui pour réclamer son écaillé. Diverses pensées le tracassaient. Comment son maître vénéré, le roi Philippe le Bel, au rendu de son jugement pour l'Artois, avait-il pu oublier l'acte qu'il avait auparavant ratifié? Comment ne s'était-il pas soucié de la disparition de cette pièce? Ah, les meilleurs rois ne commettent pas seulement de belles actions. Bouville se disait aussi qu'il irait un prochain jour faire visite au banquier Ptolemei, afin de s'informer de Guccio Baglioni et de l'enfant. Mais sans insister, comme par une politesse de conversation. Le vieux Ptolemei ne bougeait presque plus de son lit. C'était les jambes chez lui qui étaient prises. La vie s'en va ainsi. Pour l'un, c'est l'oreille qui se ferme, pour l'autre, les yeux qui s'éteignent, ou les membres qui cessent de se mouvoir. On compte le passé en années, mais on n'ose plus penser l'avenir qu'en mois ou en semaines. Vivrai-je encore quand ce fruit sera mûr, et le pourrai-je cueillir ? Songeait le comte de Bouville en regardant la poire de l'espalier.